Radio Scénique, Éric Dauter, bonjour. Il y a comme ça des spectacles qui vous séduisent de prime abord, pour lesquels on a un coup de cœur immédiat parce qu'ils réunissent la sacro-sainte trinité, texte, jeu, scénographie. Zoé est de celui-là. Je l'ai découvert en début d'année 2024 au Théâtre de Belleville. Texte et mise en scène, il était signé Julie Timmerman. Alors quand on a eu vent de la représentation d'un démocrate, c'est le nom de la pièce au Théâtre de la Concorde, on s'est précipité et on n'a pas été déçu par cette pièce aux accents franchement politiques. Bon, ça en faisait assez pour donner envie d'inviter Julie Timmerman, cette femme multitalent au micro de Radio Scénique. Et ce, en dehors de toute actualité, parce qu'il va vous falloir patienter un tout petit peu avant de revoir l'un de ses spectacles. Julie Timmerman, elle est donc notre invitée aujourd'hui dans Radio Scénique. D'auteur et d'autrice, il en sera aussi question avec Nicole Desjardins, l'un des membres du jury du prix EAT Tout Public. Vous le savez désormais, les EAT, ce sont les écrivains et écrivaines associés du théâtre. Nous sommes en partenariat avec eux, ce qui nous permet de nous plonger dans la très récente création théâtrale. Nous découvrirons ainsi un extrait de « Le truc sur le feu » signé Romane Nicolas, autrice et performeuse, un étrange texte à base d'hypnose et de préhistoire. Pascal Duterte, vous aussi vous écrivez, votre forme à vous dans Radio Scénique, c'est la chronique architecturale, normal, c'est votre métier.
Oui Eric, et comme de coutume, je vous proposerai un pas de côté, ou plutôt un grand pas en arrière, puisque je vais débuter aujourd'hui une série de chroniques consacrées aux lieux de théâtre dans l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est en Grèce que nous nous rendrons.
Pascal, c'est en fin d'émission que nous nous retrouverons. Vous avez le programme, on baisse les lumières de la salle, éteignez vos portables, voici venue la 13e édition de Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Julie Timmerman, bonjour. Vous êtes autrice, bonjour. Actrice, metteuse en scène. Mais je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser à Loïse Galland, notre stagiaire, bienvenue Loïse, le soin de faire votre portrait.
Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Julie Timmerman. Comme vous l'avez dit, elle est comédienne, autrice, metteuse en scène. Et Julie Timmerman, vous dirigez la compagnie Idiomécanique Théâtre, dont vous êtes la créatrice. Vous enseignez également au cours Florent, mais aussi dans les collèges, lycées et ateliers amateurs depuis un peu plus de 7 ans maintenant. De mon côté, je dois avouer que jusqu'ici, ma culture du théâtre n'était pas particulièrement fournie. Mais à votre demande, Eric, je me suis prêtée au jeu et à travers mes recherches, j'ai découvert un personnage polyvalent, haut en couleur, mais aussi particulièrement engagé à travers son art. Julie Timmerman, dans une interview, vous citez Vincent Lindon qui dit « Je ne vois pas comment on peut être acteur sans être engagé ». Et vous ajoutez vous-même dans une interview un peu plus récente, l'art, c'est un mensonge qui révèle la réalité. Et moi, je trouve que c'est vraiment une très jolie manière de décrire votre démarche en tant qu'actrice et metteuse en scène, on le rappelle. Parce que oui, en continuant mes recherches, je me suis rendu compte que vous faisiez du théâtre, mais vous ne faisiez pas juste du théâtre, ou du moins pas comme on l'entend habituellement. Vos pièces nous proposent un panel complet de la complexité humaine. On retrouve des personnages pris dans des enjeux moraux, religieux, sociétaux, parfois politiques. Ici, je pense par exemple à la pièce « Un démocrate », une pièce donc aux accents dystopiques dans une société complètement gangrénée par la manipulation de masse, pièce qui a d'ailleurs reçu le prix coup de cœur du club de la presse off en 2017. Parmi vos pièces emblématiques, iconiques, on retrouve aussi « Bananas and Kings »,« La sorcière », Stadium Palace ou encore Words Are Watching You, pardon, une référence à l'œuvre cultissime de George Orwell, 1984. Et votre dernière en date, Zoé, l'histoire bouleversante, singulière, d'une adolescente qui cherche à trouver sa place, à se construire malgré un père bipolaire et un climat familial électrique. Une pièce intimiste, inspirée de votre propre parcours, déjà saluée par la critique et adaptée sous forme de recueil, Zoé, avec une suite inédite, celle de Petite Zoé, qui nous emmène en profondeur dans l'univers du personnage.
Merci, Loïse. Je vous ai vu réagir. Apparemment, il y a...
Oui, Stadium Palace, je ne sais pas ce que c'est.
Donc...
Ouais, je suis désolée.
Non, il n'y a pas de souci. Tout était super. Et...
Une erreur de... Une simple erreur de source. Julie Timmerman, quelques commentaires. L'art, c'est le mensonge qui révèle la réalité.
Oui, ça, c'est une phrase que Orson Welles dit dans F for Fake. Et qui, en fait, vient, je crois, de Picasso. Voilà.
Alors, la réalité, c'est celle notamment d'une petite fille qui vit dans une famille un peu particulière, par exemple, comme dans Zoé, une réalité qui s'inspire de la vôtre dans cette pièce-là.
Oui, tout à fait. C'est en partie autobiographique. Je me suis aussi beaucoup renseignée auprès de gens qui avaient vécu un peu le même parcours que moi, souvent en bien pire. Donc des enfants. Alors voilà, parce que ce qui m'intéresse dans la bipolarité, c'est pas tant la bipolarité que les aidants, le parcours des familles, des proches, de comment on vit ça, puisque c'est mon cas. Donc je suis sensibilisée à ça et on n'en parle pas beaucoup. Hein. On parle de plus en plus de la maladie mentale, mais pas énormément de la façon dont on se construit quand on a grandi avec un père qui nous a donné une grille de lecture du monde. Alors, pour ma part, extraordinaire. Mon père est un artiste dans tous les petits recoins de sa vie, comme dans les grands. Il est artiste en tout. Donc, à la fois une grille de lecture magnifique du monde, poétique, sensible, en empathie. Et en même temps, une grille de lecture décalée. Beaucoup de choses qui me paraissaient normales quand j'étais enfant, mais qui, au fond de moi, je pense, au fond de moi, je devais sentir que quelque chose était étrange, bizarre, parce que j'étais pas totalement épanouie pendant très longtemps. J'ai compris au fur et à mesure du temps que cette grille de lecture n'était pas très juste. Et donc, c'est le contact avec l'extérieur qui fait qu'on se reconstitue une autre grille de lecture.
Alors, un petit extrait qui nous montre les clés de compréhension étranges du père de Zoé. Zoé, de Julie Timmerman, extrait.
Quand papa n'est pas en forme, je lui remonte le moral. Quand il est en forme, je m'écrase. Quand papa n'est pas en forme, il fume et maman est heureuse. Quand papa est en forme, il a les yeux brillants, il saute partout. C'est mon papa, lui et moi et lui. Et maman pleure parce qu'il a arrêté de fumer. Je me cherche, qui lui demande, et elle dit, t'as arrêté de fumer? Et là, je sais que papa est en forme et que maman va pleurer. Parce que quand papa va bien, en fait, il va mal. Et quand il s'énerve après maman, je dois lui dire, j'ai la tâche, la responsabilité, le pouvoir de l'arrêter. Je dis papa, en levant le doigt comme ça, papa. Et il s'arrête tout de suite d'engueuler maman. Et maman pleure. T'as oublié quoi? Aujourd'hui, papa est en forme et il y a des jours comme ça où j'aime pas trop que papa soit en forme. T'as oublié quoi? Mon appareil dentaire, cette nuit, j'ai oublié. Alors si c'est comme ça, rien n'a d'importance. Rien n'est important alors si on peut oublier son appareil dentaire comme ça. Un appareil dentaire que ses parents se cassent le cul à payer cher, très cher, à cet orthodontiste qui est au métro Villiers, Wagram, je sais plus, cet orthodontiste très cher qui est dans les beaux quartiers. Alors si on peut oublier de mettre son appareil dentaire comme ça, alors que ses parents le payent une fortune, qu'ils ne vont pas en vacances pour pouvoir redresser les dents de leur fille, qu'ils ne vont pas au resto, qu'ils ne s'achètent pas de maison de campagne, parce qu'ils pensent que s'ils ont mis une enfant au monde, ça n'est pas pour la laisser avec des dents pourries. Qu'ils pensent qu'ils lui doivent tout et qu'elle ne leur doit rien, mais qu'elle se doit à elle-même de mettre son appareil dentaire toutes les nuits sans exception, comme recommandé par cet orthodontiste très cher, recommandé elle-même par le dentiste de famille, qui n'est pas donné non plus. Alors si ça n'a aucune importance, alors rien n'a d'importance, tout est égal. C'est juste une fois, papa. Ah, c'est juste une fois. Tu sais, c'est ce que disaient aussi les gens sous occupation. Quand ils voyaient un soldat allemand battre un juif à mort dans la rue, je me suis pas interposée. J'ai pas réagi, mais c'était juste une fois. Je ferai mieux la prochaine fois. Et une fois, puis deux fois, puis trois fois, ils laissaient la situation se détériorer. Tu oublies ton appareil dentaire une fois, puis deux fois, puis trois fois, et un jour tu entends des trains passer. Et on te dit que c'est pas du bétail qu'il y a dedans, mais des hommes, des femmes et des enfants, qu'un fou furieux va exterminer dans des chambres à gaz. Et tu réalises qu'alors qu'il aurait fallu réagir juste une fois, vous t'aurez empêché un type d'en battre un autre à mort. Peut-être que 6 millions de juifs ne seraient pas morts dans les camps. Tu vois ce que c'est de ne pas mettre un appareil
dentaire. Julie Timmerman, on vous entend là dans un extrait de Zoé. Finalement, est-ce que le théâtre, c'est pas ça? C'est universaliser l'intime. En fait, c'est du délire. Son père est en train de délirer. Il lui dit, t'as pas mis ton appareil dentaire et voilà comment on a créé la Shoah, en gros.
Oui, c'est intéressant parce que je me suis beaucoup demandé, comme j'écrivais sur ma famille, je me suis dit c'est très spécifique, c'est une famille de comédiens, metteurs en scène, on est déjà dans le théâtre, bon, est-ce que ça va parler au plus grand nombre? Et en fait, plus c'est spécifique, plus on est détaillé sur un univers bien particulier, plus on donne de détails, plus c'est universel. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas en faisant des généralités qu'on parle à tous, c'est en étant très très détaillé dans une chose qu'on veut dire. Et beaucoup de gens se reconnaissent dans un nombre de choses qui sont dans la pièce, alors que voilà, c'est ce que j'ai vécu moi, c'est des détails précis.
Et en même temps, si on n'est pas concerné, on est concerné par le sort de cette petite fille, parce que vous avez un ressort dramatique et un ressort comique aussi, parce que vous n'hésitez pas à utiliser la comédie pour parler de quelque chose d'un peu grave. Il fait des menaces de suicide, il...
Oui, mais c'est essentiel de pouvoir en rire. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup le tragicomique, parce qu'il ne faut pas que la comédie prenne totalement la place et qu'on oublie que c'est quand même... Voilà, il faut... arriver à faire rire le spectateur de telle sorte qu'à un moment donné, il se met à pleurer et il ne sait pas comment c'est arrivé. Bon, c'est le but, hein, voilà, je ne sais pas si, comment ça se déroule dans la pièce, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que les gens ressentent. Et c'est très important pour moi, parce que si dès le début, on est dans le tragique, les gens vont se tenir à distance, ils vont comprendre que, bon, ça va être terrible, et ça va être ça pendant une heure et demie. Alors que s'ils se marrent, ils rigolent, ils vont de surprise en surprise, et puis tout d'un coup, ils sont saisis par un élément profondément tragique, là, on a de l'émotion et il se passe quelque chose.
Alors, une de vos marques de fabrique, on l'a dit, c'est le tragicomique. Là, récemment, le thème de la bipolarité a été mis en exergue grâce à la confession en radio et écrite de Nicolas Demorand, un journaliste connu de France Inter, qui a avoué en souffrir. Votre autre marque de fabrique, ce serait aussi de prendre à bras-le-corps des thèmes d'actualité, la maladie mentale, la souffrance psychologique, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, c'était pas pour répondre à une question d'actualité. Il se trouve que la santé mentale est devenue grande cause nationale cette année, donc je suis en plein dedans.
Mais on va le voir, vous êtes assez précurseuse, si ça se dit. Vous êtes assez précurseur, c'est pas cette
affaire. Faudrait qu'on ait un féminin pour
voilà,
ça.
Vous êtes précurseuse d'un certain nombre disons, lâchons le mot, de faits de société.
Oui, alors c'est drôle, parce qu'il y a 15 ans, j'ai fait un spectacle sur la manipulation du langage, la manipulation des mots, et depuis, j'ai l'impression d'en entendre parler à tout bout de champ, c'est devenu un sujet très à la mode. Moi, c'était d'après Orwell, hein, sur la novlangue, je me suis intéressée à ça. Après, j'ai écrit en 2016 Un démocrate, qui déjà était tout à fait un sujet important, déjà à l'époque, hein, sur la propagande et la communication de masse, les spin doctors, etc. Mais qui le devient de plus en plus, et aujourd'hui, avec l'IA, enfin, on va en parler, mais avec les nouvelles technologies, c'est vrai que c'est exponentiel.
En plus, vous écrivez quelque chose d'assez joli. Vous dites être plutôt qu'avoir, quitte à assumer d'être inadapté dans un monde fou, n'est-ce pas dans la bouche des fous qu'on trouve la vérité? Toujours oui, concernant Zoé. Hein.
Oui. Bah, je m'inscris vraiment dans la ligne shakespearienne. Shakespeare fait dire au fou la vérité. C'est l'idée que le fou est toujours celui qui va dire le roi est nu. Donc on a besoin du fou dans la société. Parce que nous, on est adaptés. Hein. Sinon, justement, on est fou ou on crève. Voilà, il faut s'adapter. Mais il y en a qui n'arrivent pas à s'adapter. Et ceux-là, tant qu'ils sont là, disent des choses qui peuvent nous réveiller de temps en temps et nous ramener à des choses. Voilà.
Si on avait une troisième caractéristique pour vous qualifier votre travail, ce serait l'esprit de troupe. Hein. Vous avez autour de vous des gens qui vous tiennent chaud, hein, des comédiens et comédiennes que vous faites jouer au fur et à mesure de vos créations.
Oui, tout à fait. Et je suis contente que vous en parliez parce que j'ai rarement l'occasion de les citer. J'aimerais bien le faire.
Allons-y.
Anne Cressant, Mathieu Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin, Guillaume Fafiot et toute l'équipe artistique autour, la dramaturge Pauline Timonier, la scénographe Charlotte Villermet, la costumière Dominique Rocher, l'éclairagiste Philippe Sazra, en musique Benjamin Laurent, Vincent Artaud, en son Michel Aide. Voilà, et Madame Miniature, avec qui je travaille actuellement.
Ça ressemble aux Molières, ça tombe bien. C'est ce soir les Molières, vous faites vos hommages.
C'est important parce que, voilà, on a rarement l'occasion de les citer. Or, un spectacle ne se fait jamais tout seul, sans compter toute la partie administrative, de production, de diffusion, Anne-Charlotte Lesquive, Isabelle Franck, c'est vraiment des gens qui m'accompagnent depuis des années et des années et qui font les spectacles qu'on fait. Might be right if you're wrong, or right you're better. Propaganda, propaganda, propaganda. Come to our side, she does say. Come on over, she does say. When they don't need more competition for her affection, you should fight on over there. Where's your will to win, to act like an idiot? Propaganda, propaganda. Where's your will to fight to know what's wrong and right? And propaganda, propaganda, propaganda. Come on over. Fight on over there. Duck that missile.
got missiles, missiles like a propaganda, propaganda. Keep your powder dry, no, we shy away from propaganda, propaganda, propaganda. Think it over, she will say. Jump off over, she will say. Well, I'm not a doctor, tell to the children's hands and fight, fight on, fight on. She does say, come on over, she does say.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique sur Aligre FM 93.1, nous recevons aujourd'hui Julie Timmerman. Julie Timmerman, vous êtes une femme de talent qui écrit, qui met en scène et qui joue des spectacles choraux. On évoquait l'équipe, vous avez oublié de mentionner deux personnes dans la...
Véronique Brett et Xavier Jacquot, voilà, merci beaucoup.
Avec ça, la liste est complète des gens qui vous entourent et qui vous tiennent chaud. Je disais à l'instant que vous étiez peut-être malgré vous en prise constante sur l'actualité. C'est le cas de votre pièce intitulée « Un démocrate ». On peut la présenter en deux mots ?
Oui, « Un démocrate », ça parle d'Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud.
Le double neveu. Hein.
Double neveu, par son père et sa mère, qui a vécu 103 ans. Qui vivait à New York et qui a inventé durant sa vie des techniques de manipulation des masses scientifiques, c'est-à-dire une méthode scientifique pour manipuler les masses. Alors, il a d'abord travaillé dans l'industrie... il a commencé pendant la guerre de 14. Donc, vous savez, le président Wilson avait été élu sur un programme de paix, sauf qu'en 17, il fallait absolument que la population soit d'accord pour entrer en guerre. Donc, il a fallu faire une grande campagne pour que les États-Unis acceptent d'entrer en guerre. Donc, déjà... Bon, ça commence bien hein, dans une vie de relations publiques. Ensuite, il a vendu du savon. Ensuite, il a vendu des présidents des États-Unis comme on vend de la lessive.
Alors, on va venir sur ces deux actions que vous développez particulièrement. Bernays, à la question de Freud, hein, vous les faites dialoguer, il lui demande, et c'est l'origine peut-être du titre de la pièce, « Es-tu un démocrate ?» Et toi, tu es un démocrate ? Demande Freud. Et qu'est-ce qui répond Bernays ?
Ah oui, bien sûr, je dirige les gens, mais dans le bon sens.
On va d'ailleurs l'écouter se présenter lui-même. C'est au début du spectacle « Un démocrate » de Julie Timmerman, extrait.
Dites-nous alors, docteur, les relations publiques, c'est quoi ? On parle de quoi, là ?
Mais on parle d'un concept simple, c'est que les gens croiront davantage ce que je dis si vous m'appelez docteur. Premièrement, les relations publiques, on croit souvent que c'est de la publicité. Ce n'est pas de la publicité. Ben, si vous avez cru que je venais pour vous vendre quelque chose, vous vous êtes trompé. Bon, le publicitaire vend le bien qui existe dans le produit. Moi, j'invente le bien dans le produit. Je dis, dans ce produit, il y a la santé, ou le progrès social, ou le changement, ou la liberté. J'agis directement sur la nature des choses, je leur confère des vertus et ainsi je modifie la perception qu'en a le public. Vous saisissez ? Je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent penser, je modifie le contexte dans lequel l'opinion publique se forme.
Comme quand vous avez fait croire que le bacon and eggs était le petit déjeuner typique des Américains.
C'est inventé de toutes pièces, oui. Mon client voulait vendre son bacon.
Monsieur Bernays, vous avez toujours dit que le conseiller en relations publiques devait avoir une éthique.
Oui. Je n'ai jamais pris un client qui vendait de l'alcool. J'ai agi pour l'emploi en Amérique, j'ai lutté contre le racisme, contre le fascisme.
Vous avez aussi fait fumer les femmes en public.
On ne savait pas à l'époque.
Et le coup d'État au Guatemala ?
Bon, écoutez, on ne peut pas juger quelqu'un pour des actes qu'il croyait juste à une époque.
Light up the light smoke, a lucky strike. The right smoke, the light smoke, a lucky strike. For the taste that you like, light up a lucky strike.
A lucky light up a light.
Julie Timmerman, on vient d'entendre un extrait d'un démocrate. Et là, sous nos voix, c'est une publicité pour des
pour
cigarettes,
Lucky Strike.
Pour Lucky Strike. Parce que ce Edouard Bernays, il n'a pas seulement fait des présidents, il a aussi beaucoup, beaucoup travaillé pour l'industrie de la cigarette.
Oui. Quand le patron de Lucky Strike vient lui dire « les femmes ne fument pas suffisamment, qu'est-ce qu'on fait ?» Il va voir un ami de son oncle, un psychanalyste new-yorkais. Il lui dit « que représente la cigarette pour la femme ?» Et ce monsieur lui dit « eh bien, c'est un symbole phallique, le symbole du pouvoir sexuel masculin. » Et donc, il se trouve que la femme de Bernays était féministe. Donc il va voir, je crois que c'était la Lucy Stone League, et il leur dit « si vous voulez être à l'égal des hommes, il faut fumer comme les hommes ». Et il organise une énorme campagne qui va s'appeler « Torches of Freedom », que nous on traduit par « les flambeaux de la liberté ». Voilà, le dimanche de Pâques, elles vont sortir de l'église et toutes allumer une cigarette et descendre la 5e avenue en fumant.
En pensant qu'elles incarnent la liberté. Voilà. Il y a un déplacement de sens.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire qu'on dit « fume, c'est la liberté ». Aujourd'hui, on dit « achète des baskets, c'est de la liberté ».
Voilà.
C'est incroyable.
C'est ça.
En tant qu'autrice, on travaille sur le sens, on travaille sur les mots. Et quand les mots n'ont plus aucun sens, qu'est-ce qu'on arrive à en dire ?
On commence le spectacle comme ça depuis quelques années. Déjà, on dit que tout ce qu'on va dire là est vrai. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, parce que nous sommes dans une époque où on est entouré de fake news, de mensonges, de choses qui sont fabriquées. Or, c'est notre métier au théâtre de faire du mensonge, de l'illusion, des histoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, au théâtre, si dehors, c'est plein de mensonges, en gros, en résumé ?
Qu'est-ce qui nous reste ?
Eh bien, ce qui nous reste, c'est la vérité. Donc on va dire les choses crûment, frontalement et uniquement des choses vraies.
Alors comment est-ce que elle vous est venue cette idée de travailler sur cet obscur mais efficace roi de la manipulation de masse ? Vous l'avez dit, il est mort à 101 ans. Lui, il n'est pas mort de la cigarette.
103 ans.
103 ans, pardon.
Lui ne fumait pas. C'est comme Steve Jobs qui mettait ses enfants dans des écoles sans écran. Lui incitait le monde à fumer, mais ne fumait pas.
Alors il a eu plus de 400 clients.
Oui, oui. Il a fait après un coup d'État au Guatemala avec la CIA. Il a renversé un président démocratiquement élu. J'ai fait tout un spectacle par la suite sur le sujet.
On va y revenir tout à l'heure. Restons sur la...
Et Goebbels lisait ses livres.
Oui, c'est ça. On anticipe un tout petit peu, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais trop regretté ce qu'il avait fait dans la vie. Il a renversé des gouvernements.
C'est le sentiment que j'ai. Il faut penser que le premier client de Bernays, c'est lui-même. En fait, pour un homme de l'ombre, il a passé toute sa vie à se promouvoir, à faire de l'autopromotion. Donc en fait, est-ce qu'il a eu des regrets ? En tout cas, il n'en a jamais parlé, il ne l'a jamais dit et ça ne s'est jamais exprimé. Personne, dans tout ce que j'ai lu, personne n'en a jamais parlé. Par contre, moi, je choisis de mettre une scène à la fin où sa femme, au moment de mourir, regrette et se dit qu'elle n'a jamais rien créé dans la vie et que tout cela est vain. Et je montre un Bernays qui reste bien droit dans ses bottes et qui ne se remet pas en question pour autant.
Oui, on l'a entendu tout à l'heure. En quoi est-ce qu'il serait concerné si la vérité a changé, si ce qui n'est plus admissible aujourd'hui l'était hier, en quoi est-il responsable ?
Oui, d'autant plus que c'est quand même difficile à soutenir. On sait que dès le milieu du 19e siècle, il y avait des gens qui s'élevaient contre la consommation de tabac, qui savaient que ça causait des maladies. Donc on ne peut pas dire qu'en 1920, Bernays n'était pas au courant. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai des preuves de ça. Donc il était au courant. Un coup d'État contre un président démocratiquement élu, même si on est lobotomisé et qu'on pense que c'est les communistes qui ont, ont fait de la propagande pour faire croire qu'il avait été élu, etc. Enfin, quand même, on fait des centaines de morts, ça cause des guerres civiles. Bon, c'est difficile à justifier quand même.
Vous parliez de documents, justement, comment est-ce que vous avez travaillé ? On a le sentiment d'un texte... Alors, une fois de plus, c'est une tragicomédie. On rit, c'est passionnant, il y a un rythme effréné qui empêche complètement de s'ennuyer. Parfois, c'est riche, parfois, on a envie que vous refassiez la scène pour comprendre quelque chose qu'on aurait loupé. On a le sentiment d'un texte très documenté.
Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Alors souvent, je dis, je fais pas du théâtre documentaire. J'ai beaucoup de mal avec le théâtre documentaire. Je fais un théâtre documenté. C'est-à-dire, c'est vraiment un spectacle. D'ailleurs, il y a des gens au tout début, on jouait, des gens qui pensaient que j'avais inventé et même que je forçais un peu le trait. C'est pour ça que maintenant, je dis que ça, tout est vrai. Mais voilà. Mais par contre, très documenté parce que au lieu de réagir à chaud à l'actualité, de dire voilà ce que je pense, je monte sur scène pour vous dire, vous devez penser comme moi. Je fais pas du tout ça. Enfin, je crois. J'essaye de ne pas le faire.
Je vous confirme.
Je vais chercher dans le passé ce qui éclaire le présent. Or, le passé a cela de formidable, d'une part, qui ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser. On expose des faits et c'est le public qui réfléchit et qui en tire les conclusions. Et d'autre part, que le passé est vérifiable. Moi, j'ai trouvé les documents déclassifiés de la CIA, du département d'État des États-Unis, concernant le coup d'État au Guatemala. Donc, tout est lisible, tout est vérifiable par tout le monde, en libre accès. Il suffit de s'y mettre et d'avoir le temps de s'y coller.
Alors, justement, une petite virgule. Je vais demander à Loredana de nous envoyer Chiqui Kita Banana Song pour illustrer la deuxième action un petit peu de poids d'Edouard Bernays.
I'm Chiquita voilà. Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. No, not yet, my dear. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking.
How about me?
No, no. When you are fully ripe, my dear, those little flecks of brown appear.
Me?
You're most digestible, my friend. Delicious, too, from end to end. You can put them in a pie.
Voilà, là on entend sous forme de publicité. C'est un gentil jingle publicitaire sur la United Food Company. Ça cache une vérité un petit peu différente. Et ça cache une des actions d'Edouard Bernays. Racontez-nous ce qu'Edouard Bernays est allé faire au Guatemala.
Donc, pour la première fois dans l'histoire du Guatemala, un président socialiste arrive au pouvoir, il s'appelle Arévalo.
On est à quelle époque hein?
On est dans les années 50, 1950, et juste après arrive donc Jacobo Arbenz. Et donc, tous les deux, donc le premier est instituteur, le deuxième est militaire, mais tous les deux sont socialistes. Et ont envie de mettre en œuvre une réforme agraire qui, en gros, redistribue les terres aux Indiens. Ces terres qui ont été volées pendant des décennies par la United Fruit Company en particulier. Donc cette compagnie bananière états-unienne, je tiens à décoloniser le langage et à dire états-unien et non pas américain. Voilà, j'en profite pour le dire. Et cette compagnie bananière qui a vraiment volé les terres, qui s'est installée partout et qui est la première grande multinationale au monde puisqu'elle est la première à s'installer dans plusieurs pays et à fructifier. Et donc voilà, donc arrive Arbenz et la United Fruit Company ne supporte pas cette réforme agraire qu'il met en œuvre et qui lui reprend ses terres sous prétexte qu'elles sont en friche, qu'elles ne sont pas utilisées, que si, que ça, et donc demande à la CIA de faire un coup d'État. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, aux États-Unis, il y a une chose inédite, deux frères sont... qui étaient des avocats de la compagnie, donc très proches de la compagnie, sont à la tête des deux institutions les plus importantes aux États-Unis, le secrétariat d'État et la CIA. Donc ces deux frères, anciens actionnaires et avocats de la compagnie, mettent tout en œuvre pour faire tomber le gouvernement d'Arbenz.
Et ce, en dehors de toute légalité diplomatique, puisque les États-Unis... C'est de la manipulation à distance internationale, inter-État.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que... Il y a très peu... Alors, ils mettent quand même à feu et à sang Guatemala City,
oui,
mais en
oui,
réalité,
passage,
c'est
oui.
surtout... Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est le début de la guerre psychologique. C'est pour ça qu'on fait appel à des gens comme Bernays, pas que... mais voilà, des conseillers en relations publiques. Donc, la guerre psychologique, c'est faire tomber des tracts ou, comme au Guatemala, ils sont très catholiques, très croyants. Alors, des tracts où c'est l'évêque qui dit « Arbenz est l'antéchrist, il faut absolument le faire tomber ». Donc, ce peuple qui a élu Arbenz à 64%, enfin, c'est un chiffre incroyable, finalement va accepter la chute d'Arbenz en 9 jours, sans coup férir.
Donc on est d'accord sur le fait que Edouard Bernays opère un déni de démocratie par manipulation de masse interposée.
Voilà.
Voilà, bel effort.
Radio Scénic par Éric Docter. Le théâtre sur Aligre FM.
I'm going bananas.
troubled Mendez. Who knows? Could be the traffic heat on something that I eat that make me gonzo. I do carry on to put in going bananas. Someone book me a room in the house at the end of all my mananas. But I'm going bananas. But I'm going with sugar. There's bands in my belfry. Won't you make sure the straitjacket's tight? Otherwise, I might get myself free. Yes, there's bands in my belfry. Oh, boy. Who knows? Could be the wine I drink. Or else the way I think that makes me gonzo. Oh, Dr. Alambo says I'm going bananas. Someone get me a beer. I'm going bananas. See, I'm going bananas.
Radio Scénique avec Julie Timmerman qui est notre invitée. Vous disiez hors micro que Madonna qu'on vient d'entendre imitait
Carmen Miranda, donc il chante la chanson de Chiquita qu'on a entendue tout à l'heure.
Cette pièce qu'on évoquait, à savoir un démocrate, elle comporte une sous-partie, on l'a expliqué tout à l'heure, qui est consacrée à la chute du président démocratiquement élu du Guatemala, chute orchestrée par Edouard Bernays, qui est le héros d'un démocrate, mais vous en avez fait une pièce entière.
Oui, qui s'appelle Banana and Kings. Donc c'est le même principe avec la même équipe. On est dans un récit, dans un rapport au public très, très présent comme ça. Mais on est beaucoup plus incarné. On va vraiment chercher la psychologie de chacun des patrons de la compagnie. Et puis après, comment cette chute du président Arbenz s'orchestre et comment il finit sacrifié. Voilà.
Bernays est présent dans cette
tragédie. Il apparaît dans une scène.
Une seule scène.
Oui, c'est une sorte de clin d'œil. Parce que le spectacle est sur 150 ans d'histoire de la compagnie, donc c'est pas que sur le coup d'État. Mais ce qui nous plaisait beaucoup aussi dans cette histoire, c'est le côté polar, c'est-à-dire que moi je cherche toujours la théâtralité dans les sujets que je vais traiter, hein, je viens pas faire un cours d'histoire.
Justement, je voulais en venir là, comment est-ce que vous parvenez à éviter l'aspect rébarbatif d'une conférence, c'est-à-dire qu'on s'instruit, on est là, on est impressionné par la masse d'informations qu'on nous transmet, mais on suit une histoire, une dramaturgie.
Moi, j'aime tous les registres théâtraux. J'adore ça. La marionnette, le clown, le masque, le théâtre de Tréteau, le théâtre brechtien. Voilà, moi, je m'inscris vraiment dans la lignée de Brecht. Et donc, le théâtre, dans toutes ses formes, est ce qui me plaît le plus. Donc, dans Bananas en particulier, on utilise vraiment toutes les formes de théâtre. Et les acteurs s'en donnent à cœur joie. Je pense que ce plaisir et cette jubilation des acteurs se ressent dans le public.
Alors, dans Un démocrate, on explique le dispositif scénique. Il y a une espèce d'immense bureau qui va se déplacer petit à petit au fur et à mesure de l'action. Et au fond, il y a un tableau noir. Et cet immense bureau qui va servir de scène, qui va servir de bureau, qui va servir de...
D'estrade. De podium.
Voire de building. Hein. Il y a une scène qui se passe...
Oui. En
haut du Chrysler Building. Est-ce que c'est important pour vous, ce dispositif scénique et tous les accessoires dont vous dotez vos comédiens?
Oui, parce que comme on ne sort pas de scène, il faut qu'on puisse en deux secondes indiquer quel personnage on est en train de jouer. Donc on utilise un accessoire, un accent, évidemment la lumière, la musique, le son, la scénographie, tous ces éléments-là qui en fait sont très simples, mais ensemble, mis ensemble, bien choisis, montrent aux gens qu'on a changé d'époque, de lieu, de personnage.
Et Freud dans tout ça? Parce qu'on le rappelle, hein, Edouard Bernays, c'est le double neveu de Freud. Quel rapport il l'entretenait et quel rapport vous lui faites entretenir dans votre tragicomédie?
Voilà, alors il y a une scène où il est vraiment en dialogue avec le jeune Edouard Bernays et après il apparaît comme un fantôme. Hein, il est comme un fantôme, comme une petite voix qui vient parler à l'oreille de Bernays quand il a des questions particulières ou alors qu'il fait un cauchemar sur le fait que ses livres se sont retrouvés chez Goebbels, alors son oncle l'accuse. En fait, Freud, en réalité, il n'a pas compris ce que faisait Bernays. Freud, qui a toujours cherché à libérer les gens de leurs démons, avait un neveu qui prétendait utiliser l'inconscient, mais au contraire pour les manipuler. Donc je pense que Freud n'a vraiment pas compris ce que faisait son neveu. Et je ne sais pas jusqu'à quel point il s'en est inquiété.
Alors la manipulation, vous la montrez, mais y compris physiquement, hein. Les comédiens ont une sorte de petite télécommande et ils disent « Ah bah tiens, celui-là, on va le faire sortir, on va le faire rester chez lui, on va lui faire peur. » Vous expliquez notamment les ressorts de la manipulation.
Oui, c'était une manière de montrer ce qu'était la pensée unique. C'est-à-dire que le problème, c'est... même s'il y a des débats, par exemple, on allume la télé, bon, il y a des débats entre des gens qui ne sont pas d'accord, bon, mais globalement, tout le monde a admis que le capitalisme était quand même le meilleur des régimes. Bon, ce n'est pas pour rentrer dans les histoires trop, voilà, d'opinion politique du tout, mais pour dire simplement qu'on a quand même une forme de cercle dans lequel tout le monde s'inscrit. Même quand ils ne sont pas tout à fait d'accord sur certains points. Donc c'était une manière de montrer que chacun était dans une maison et finalement n'en sortait jamais. Donc là on a quatre spin doctors qui sont employés eux à regarder des vidéosurveillances où ils voient les gens qui sont chez eux et surtout le but c'est de les laisser enfermés chez eux. Et pour qu'ils restent enfermés, s'ils ont envie de sortir, on fait appel à leurs pulsions, donc le désir, la peur, le respect de l'autorité et puis il y en a plein d'autres.
Et là, cette interview touche à sa fin. On peut préciser qu'un démocrate a écrit il y a 9 ans, il est d'une terrible actualité. À l'époque, on parlait à peine des fake news. Julie Timmerman, comment on fait pour voir vos spectacles? Quand est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir? Je le rappelle, il n'y a pas d'actualité spéciale. Un démocrate vient de terminer au Théâtre de la Concorde.
Tout à
Alors,
fait.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver et quand?
Alors, nous avons quelques représentations. Donc, un démocrate en duo.
Vous avez 30 secondes pour nous donner toutes les dates.
Voilà, c'est ça. Non, mais je vais donner les villes où on va passer. Mais surtout, le plus important, c'est de... Enfin, si vous voulez voir le travail, c'est d'aller sur le site de la compagnie idiomecaniquetheatre.com.
Voilà, on va le relayer sur notre
voilà,
page.
Voilà, c'est là-dessus que l'agenda est mis à jour régulièrement. Là, dans un mois, j'aurai mis à jour toutes les dates de l'année prochaine. Donc là, on va jouer à Bagneux, à Compiègne, Fontenelle-Fleury, Pont-à-Mousson, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gély-du-Fay.
Là, on parle d'un démocrate.
Val-Briard. Hein. Alors, c'est les différents spectacles de la compagnie.
D'accord.
Là, c'est principalement un démocrate.
Nos auditeurs font le tri.
Voilà, vous ferez le tri. Mais bon, je m'arrête là parce qu'il y a Douai, Villeneuve-d'Ornon. Hier, il y a beaucoup de dates. La plus proche de Paris, pour ceux qui sont à Paris, c'est Fontenelle-Fleury. Mais le mieux, c'est d'aller sur l'agenda de la compagnie.
Julie Timmerman, merci. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 et toujours à l'écoute de Radio Scénique. Nicole Desjardins, bonjour.
Oui, bonjour.
M'entendez-vous bien?
Je vous entends. Et vous, m'entendez-vous
bien? Je vous entends parfaitement. Je crois que vous êtes à Toulon. Nicole Desjardins, vous êtes comédienne, vous êtes metteuse en scène, vous avez de la pratique du chant, de la danse et du mime, et vous êtes aussi directrice artistique de la compagnie Vue sur Jardin. Mais la raison pour laquelle on vous a demandé de participer à cette émission, c'est que vous êtes également membre du jury des EAT. Et vous avez très récemment attribué les prix Tout Public pour 2025. Hein.
Voilà, c'est ça. On vient de finir notre sélection de l'appel à texte pour 2025. Donc, notre sélection a été très riche cette année. Je trouve qu'on a eu un très bon cru. On a sélectionné 6 textes.
Sur combien? Vous en avez reçu combien de textes?
On en a reçu. Alors, on avait stoppé à 150. Parce que l'an dernier, je crois qu'il y avait eu...
quelques 300 textes, oui.
Oui, voilà, exactement. Donc cette année, on s'est dit qu'on allait restreindre à 150. Personnellement, l'année prochaine, je pense qu'on remontera à 200. Parce que je trouve que l'appel à texte, il est très rapide. On demande aux gens, on dit aux gens que ce seront les premiers qui envoient, qui sont retenus, enfin qui peuvent passer.
C'est un peu frustrant, vous trouvez ?
C'est un peu frustrant, oui. Il faudrait trouver un. Je vais essayer de penser un système de plateforme où ça ouvre un peu plus le créneau pour pouvoir déposer son texte, parce que là. Alors, ça a été réglé en 5 minutes.
Alors, parmi les textes sélectionnés, il y a Laura Desprins pour Coup de grâce, c'est un duo sur un banc. Juliette Maffray pour Start Again, c'est sur fond de jeu vidéo. Héloïse Marty pour Les petites sœurs qui n'ont pas le droit de souffrir, c'est une histoire de sœurs en milieu rural. Anna Mimoun pour Tu ne pouvais pas être bien, tu étais dans la lumière, c'est un drame franco-italien. Coralie Nonnenbacher-Guérin pour Sans poser de questions, c'est une fratrie justement qui se pose des questions sur fond de violence. Et Roman Nicolas pour Le truc sur le feu. Et c'est ce dernier texte qu'on a décidé de mettre en valeur. Vous pouvez le résumer en deux mots ?
Alors, en fait, ça se passe à la préhistoire. Alors, ce qu'on a beaucoup apprécié avec ce texte, c'est que c'est complètement... je vais employer le mot décalé, mais c'est vraiment ça. Parce
c'est loufoque, c'est une espèce de guerre du feu.
Oui, c'est la guerre du feu, mais de façon, il découvre le feu tout à fait par hasard, en mettant le feu partout. Il disait, on a trouvé un truc, on va le tester. Ah ben c'est bizarre, notre copain, il prend feu, il brûle, il se consume. Ah tiens, c'est étrange. Ah puis le feu, il se propage. Enfin,
il découvre la société aussi. Petit à petit.
Voilà. Il y a la propriété, bien sûr, qui s'installe, qui finit par s'installer à la fin du texte. Mais c'est un côté Marx, les Grouchons Marx, un côté un peu complètement burlesque. Alors c'est un texte qui marchera très bien avec le jeune public, je pense. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'avait conçu la jeune femme, je pense, parce qu'elle l'a déjà présenté à d'autres jurys. Pour des spectacles pour enfants, enfin pour enfants, pour jeunes, je veux dire, pour la jeunesse.
Oui, par principe, le texte n'a jamais été mis en scène, c'est une des règles. C'est que pour présenter un texte au jury des EAT, il faut qu'il n'ait jamais été ni publié ni mis en scène.
Voilà, alors d'ailleurs, on a fait quelques découvertes comme ça, après coup, une fois la sélection faite, de s'apercevoir que des textes avaient déjà été montés ou mis en maquette ou édités. Donc du coup, ça nous a restreint pour nous, pour les mettre en maquette après. Il y a des textes qui ne pourront pas être mis en maquette chez nous parce qu'ils l'ont déjà été. Voilà.
Si vous aviez un bilan à tirer de cette sélection, ça parle de quoi ? C'est plutôt la violence qui domine, les rapports homme-femme, femme-homme, la violence homme-femme ?
Oui, il y a la violence homme-femme, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup la maladie. Alzheimer revient beaucoup. Il y a la famille, beaucoup aussi. On a eu deux textes. Alors il y a la famille, la grand-mère italienne qui rapporte sa mémoire familiale à la jeune. Il y a eu aussi un texte sur les racines de quelqu'un qui vient du Vietnam et qui fouille un peu les racines de ses parents et grands-parents du Vietnam. Donc il y a beaucoup les racines, je dirais. Donc il y a ça, Alzheimer beaucoup.
Oui, Nicolas Desjardins, je pense que vous n'avez pas entendu la première partie de l'émission, mais nous avions avec nous Julie Timmerman, une autrice vivante et ô combien. Est-ce que vous avez l'impression, parce que je crois savoir que votre sélection de textes est essentiellement féminine, est-ce que vous avez l'impression que maintenant le théâtre, c'est aussi et surtout une affaire d'autrice ?
Personnellement, je trouve qu'il y a plus d'autrices que d'auteurs. Il y a beaucoup plus de textes d'autrices que d'auteurs. Nous, déjà, dans notre sélection, on a un tout petit tiers. Non, on a très peu de garçons là qui ont été sélectionnés. Mais en général, autour de moi, je connais énormément de femmes autrices. Je connais beaucoup moins d'auteurs. Je ne sais pas.
Il reste à savoir qui sera mis sur scène, qui sera réellement mis sur scène ou pas.
Mais vous savez, je pense que c'est un juste retour des choses parce que les autrices ont été éradiquées. Alors, je reviens sur mon cheval de bataille. Les autrices ont été éradiquées à la Renaissance par les auteurs qui ont déclaré que les autrices n'existaient pas. Donc le mot a disparu avec la fonction que les femmes ne pouvaient pas écrire. Et là, maintenant, il y a un juste retour des choses. Le mot autrice est revenu, a été réhabilité parce que les gens disaient auteureux, qu'est-ce qu'il y a rien de plus moche que auteureux. il faut dire autrice, on le dit trois fois et on, ça passe très bien, hein, spectatrice, lectrice, traductrice, auditrice, tout ce que vous voulez. Donc pourquoi pas autrice ?
Nicole Desjardins, oui. J'ai une suggestion à vous faire. On va vous garder en ligne et on va écouter un extrait de ce texte, Le truc sur le feu, un texte de Roman Nicolas.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Bonjour, installez-vous, on va commencer. Allez-y, installez-vous. Ok, on y va ? On y va. Nous sommes sur le seuil, nous allons rentrer. Alors préparez-vous, mettez-vous à l'aise. Remuez un peu vos fesses sur le fauteuil pour en sentir la texture. Allez, n'ayez pas peur. Remuez-les. Super. Maintenant, posez bien votre dos sur le dossier. Voilà. Appuyez fort dessus. Sentez sa pression sur votre dos. Relâchez. Ce n'est plus vous qui appuyez sur le fauteuil, c'est le fauteuil qui s'appuie sur vous. Fermez les yeux. Inspirez, expirez. Descendez les épaules. Décollez la langue du palais. Les yeux toujours fermés. Sentez la présence étrange de la personne assise à votre droite. Vous ne la touchez pas, mais vous sentez le rythme de sa respiration et la chaleur de son corps qui irradie. Restez un peu en pensée sur cette personne, puis concentrez-vous sur la personne à votre gauche. Vous la sentez ? Nous sommes ici et maintenant, et nous sommes ensemble. Restez seul avec cette pensée. Il y a 300 000 ans, soit il y a 12 000 générations, soit l'époque de votre arrière 12 000 fois arrière-grand-mère. Si une vie durait une seconde et qu'on remontait le temps à la vitesse d'une vie par seconde, il nous faudrait 50 minutes pour arriver à cette époque. C'est-à-dire le temps que va durer ce spectacle. Le monde tel que nous le connaissons n'était pas là. Nous n'étions pas là, mais des gens exactement comme nous y étaient. C'était il y a 300 000 ans. Les chiens n'existent pas. C'est un monde sans chiens. Genève n'existe pas. Sa géographie était différente et surtout, elle était enfouie sous un glacier haut de plus de 1 km. C'est un monde sans Suisse. Notre histoire aura donc lieu dans les Pyrénées. C'est comme les Alpes, mais en plus petit. Imaginons une plaine. Il y a quelques années, c'était de la toundra, mais avec le changement climatique, des arbres y ont poussé. Rien de tout ça ne ressemble à ce que nous connaissons. Vous êtes devant un monde qui n'existe pas, un monde invraisemblable, et ce n'est pas grave. Vous plongez, vous cédez au pacte de crédulité, et alors ça commence.
Un truc sur le feu de Roman Nicolas, lu par Pascal Dutertre. Rappelons que c'est un des textes lauréats des EAT, écrivain et écrivaine associée du théâtre. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, Radio Scénique. Pascal, nous allons retourner aux origines antiques du théâtre. On sort de la préhistoire, là, et on retourne aux origines antiques du théâtre, à l'époque des Athéniens d'abord. Nous parlerons des Romains dans une prochaine émission. Alors, qu'est-ce donc que ce théâtre antique grec ?
Nous en tiendrons effectivement à l'antiquité grecque pour cette fois. Essayons de comprendre comment naît le drame et comment il évolue vers la représentation théâtrale. Nous verrons aussi quel est le rapport qu'entretiennent les édifices avec le territoire. Dans la vie de la cité grecque, le théâtre est une production de choix qui témoigne de l'importance de sa fonction, qui, elle-même, est une part essentielle de la démocratie athénienne. Pour cela, l'État instaure le théorikon, principe qui doit permettre aux citadins pauvres d'accéder aux représentations gratuitement. Les pièces jouées sont héritières des cérémonies religieuses et s'intègrent étroitement aux mœurs des citoyens grecs.
Alors concrètement, ça fonctionne comment un théâtre antique, Pascal ?
Alors au début, c'est une simple esplanade où l'on voue un culte à Dionysos, au moyen de chants et de danses. Ceux qui participent à la bacchanale se vêtent de peaux et de bêtes et de couronnes de lierre. Ils dansent frénétiquement en rond autour de l'autel dédié à la divinité. Il faudra 2 siècles pour que le rituel donne naissance au théâtre vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. Une table est ensuite disposée sur le côté, sur laquelle monte le coryphée, c'est-à-dire le chef de chœur, une sorte de saltimbanque, salta in banco, comme on dit en italien, qui peut gesticuler à son aise. Les spectateurs s'agroupaient autour de la piste, profitant des pentes alentour pour avoir une meilleure visibilité. Un nivellement du sol permit ensuite d'établir l'orchestra de forme circulaire. C'est à cette époque que les constructions en bois sont remplacées par des dispositifs en maçonnerie et le plan en demi-cercle est adopté définitivement. L'édifice est alors constitué de deux parties, l'une pour le public, à savoir l'amphithéâtre ou le théâtron, et l'autre réservée aux acteurs, le proscénion, la scène, qui est limitée à l'arrière par la scénée. Cette dernière est une construction basse avec trois portes pour l'accès des comédiens, où l'on rangeait aussi les accessoires. Sur sa façade, on pouvait fixer des décors très simples. Il n'y avait jamais plus de trois acteurs, tous masculins, même pour les personnages féminins.
Alors ces acteurs, justement, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient ?
Eh bien, ils étaient enveloppés d'un costume matelassé, ils étaient juchés sur des cothurnes.
Des cothurnes ?
Des cothurnes, oui, des chaussures.
Des sandales.
Voilà, des sandales. Et portaient des masques, ils ressemblaient à de lourds mannequins bougeant comme des marionnettes. Ils pouvaient représenter des héros, les rois et les grands prêtres. Ils jouaient les tragédies écrites selon l'époque par Sophocle, Eschyle ou Euripide, basées entre autres sur des récits attribués à Homère, datant de 3 siècles auparavant. Les spectacles avaient lieu dans la journée lors de festivals de quelques jours, 2 fois par an. Ils comprenaient 3 tragédies et une comédie. Alors, au milieu, entre la scène et l'amphithéâtre, se trouve l'orchestra dont on a parlé, c'est-à-dire l'espace circulaire où évolue le chœur. Celui-ci est constitué d'un groupe de 15 garçons et du coryphée dont on a parlé aussi, qui en est le chef, tous choisis dans la bonne société. Leur danse est une marche rythmée avec des gesticulations accompagnées du son des crotales.
Alors les crotales ?
Bon, c'est des instruments de musique, cymbales et tambourins. Les choristes sont maquillés et incarnent ensemble un seul personnage. On accède à l'orchestra par des passages sur les côtés, appelés parodoi, situés entre l'amphithéâtre et la scène. J'espère que je suis assez clair.
Je crois, oui. Le public, comment est-ce qu'il accède à l'amphithéâtre,
Eh bien, les gradins sont construits sur un plan semi-circulaire, comme on l'a vu. Ils enveloppent partiellement l'orchestra et la plupart du temps, ils s'appuient sur une pente assez forte due à un relief naturel retravaillé. Les gradins pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont accessibles grâce à des escaliers qui rayonnent depuis l'orchestra. Les hommes s'installaient en bas et les femmes en haut. Et sur les côtés, des murs circulaires permettaient de supporter les parties latérales qui ne peuvent s'appuyer sur le relief. On retrouve cette disposition dans le site d'Épidaure, à l'est du Péloponnèse, à Syracuse et à Ségeste, en Sicile, entre autres. Il y a donc un rapport étroit entre la réalisation architecturale et son inscription dans le paysage. La perception que l'on a aujourd'hui des vestiges de l'Antiquité grecque est celle d'objets solitaires, parfois grandioses, érigés dans la campagne. La ville, quant à elle, a disparu.
De cette édition, je vais y arriver une fois que j'aurai retrouvé ma conclusion, fin de cette 13e édition de Radio Scénique sur l'antenne d'Allegre FM 93.1. Merci beaucoup à Julie Timmerman, autrice, comédienne, metteuse en scène, qui nous a présenté son travail. On mettra toutes les dates disponibles avec tous les spectacles, il y en aura pour tout le monde un peu partout, entre Un démocrate, une pièce plutôt politique, et Zoé, une pièce sur fond de bipolarité. Vous pourrez découvrir son travail. Merci également à Nicole Desjardins qui fait partie du jury des EAT, du jury tout public des EAT, écrivain et écrivaine associée du théâtre. Elle nous a présenté le travail de Roman Nicolas. C'est une pièce qui s'appelle « Un petit truc sur le feu ».
que nous a lu tout à l'heure Pascal Dutertre. Justement, merci à Pascal Dutertre, chroniqueur de son état et architecte de métier. Merci également à Pierre Demkoff qui nous a ciselé cette programmation musicale derrière la vitre. Et je la remercie infiniment parce qu'elle a beaucoup souffert aujourd'hui. Il y avait Loredana Farina sous l'œil et la férule bienveillante de notre Enrico Mastro Giovanni. Je remercie également Loïse Galland qui a fait ses débuts, presque ses débuts à l'antenne d'Aligre FM. Aujourd'hui, on lui souhaite une très belle carrière de journaliste. On se retrouve dans 15 jours. Il est 10h55 et 40 secondes. Dans quelques minutes, à 11h, vous retrouverez, après le théâtre, vous retrouverez le cinéma avec toute l'équipe de Vive le cinéma.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.